féminin. Au féminin. Féminin. Féminin.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VO Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous servir et avec moi dans le studio, Israël Jonabaï, tchadien d'origine, cofondateur et directeur de iPlus et de l'incubateur The Builders. Merci beaucoup Israël d'être avec nous.
Merci Nathalie, c'est un plaisir pour moi de revenir ici.
Le plaisir est vraiment pour nous. Alors iPlus conçoit et met en œuvre des programmes et projets de développement pour promouvoir l'esprit d'entreprise et l'innovation en Afrique, en particulier pour les jeunes. Vous avez une maîtrise en sciences économiques, un master en études d'infrastructures publiques, une licence en économie bancaire et monétaire. C'est une jolie bio. Vous avez fait tout ça à Dakar, entre Dakar, Atlanta et Ngaoundéré au Cameroun. Vous êtes lauréat du programme Mandela Washington Fellowship 2018. Après votre participation, vous êtes devenu membre des conseils consultatifs régionaux dont le rôle est de conseiller l'IREX, le Comité international de recherche et d'échange et l'USAID sur la mise en œuvre du programme YALI. En Afrique en particulier. C'est d'ailleurs dans ce cadre que vous êtes invité à prendre part au sommet du leadership pour partager votre expérience avec donc les lauréats 2019. Ce sommet s'est tenu à D.C. ici, donc du 30 juillet au 1er août. Alors le programme YALI a quelques années. Est-ce que vous restez tous en réseau avec les anciens YALI, vous-même, les futurs? Est-ce que cela forme une sorte de mouvement?
Oui, c'est un grand mouvement actuellement et le YALI est en train de s'agrandir parce qu'au niveau régional, il y a aussi des fellows qui sont formés au niveau des États-Unis ici, mais il y a aussi le YALI Network, dont ceux qui ne prennent pas part à des programmes présentiels, mais qui ont aussi des formations et de l'accompagnement en ligne. Nous sommes à plus de 500 000 membres déjà.
Ah bon, c'est impressionnant.
Oui, c'est impressionnant.
Et qu'est-ce que ça vous apporte dans le cadre de votre activité personnelle?
Déjà, le YALI, à travers la formation en business et entrepreneuriat, cela a permis, en tant qu'entrepreneur, de pouvoir renforcer mes capacités, mais aussi de booster mon entreprise. Aujourd'hui, j'opère à l'échelle du pays et du continent.
Donc ça, c'est iPlus.
iPlus. Mm-hmm. iPlus, qui est une agence qui offre des solutions techniques et managériales aux petites et moyennes entreprises, mais aussi à tout type d'organisation pour pouvoir accélérer sa croissance, assurer son développement au sens stratégique. Et étant bénéficiaire de ce programme, je peux témoigner ici que le YALI m'a ouvert beaucoup de portes.
Mm-hmm. Et The Builders, ça c'est l'association.
Oui, The Builders, c'est mon engagement communautaire. Je suis membre d'une plateforme associative dénommée Génération ABCD. Anybody can dream. Notre icône, c'est Nelson Mandela. Cette association a lancé un incubateur pour promouvoir l'entrepreneuriat au Tchad et en Afrique. Nous accompagnons les jeunes à pouvoir concrétiser leurs idées de projet.
Est-ce que vous avez des programmes spéciaux justement pour les filles et les femmes?
Tout
les femmes
fait.
Même plus âgées, les femmes dans l'informel.
Oui, nous avons déjà même comme cible les femmes et les jeunes, mais aussi nous avons un département au sein de l'association, département genre et émancipation de la femme, qui permet de pouvoir outiller les femmes de toutes les couches sociales. Les femmes vulnérables, les filles mères, les femmes âgées dans les zones reculées, de pouvoir leur former, de pouvoir leur équiper selon les activités qu'elles font déjà, de pouvoir leur donner ce qu'il faut pour pouvoir assurer en tout cas la durabilité, pouvoir croître leur business, et aussi prendre soin de leur famille parce que nous sommes conscients que cela est un défi majeur.
Et ces femmes sont très nombreuses, hein, donc
oui.
C'est un marché porteur
également. C'est un marché porteur du point de vue du social business.
Parole de femme.
Ok, Cameroun, des centaines de détenus attendent depuis des mois d'être déférés devant un juge. Des jeunes et des femmes sont parmi ces activistes. Plusieurs ONG régionales et internationales dénoncent cette situation et les conditions de détention. Pour en savoir plus sur les conditions des femmes détenues, j'ai joint Maximilienne Ngombe, directrice du REDAC, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale.
Oui, il y a des jeunes femmes activistes là. En ce moment, nous avons 8 jeunes qu'on a arrêtés à Gilles Anama, plus toute sa bande, qui sont les anciens de l'ADEC. L'ADEC, c'est l'association pour les droits des étudiants au Cameroun. Vous n'avez pas de séparation entre les grands brigands, entre les mineurs qui ont peut-être seulement volé parce qu'ils avaient faim, les femmes, la corruption, tout la drogue qui rentre. Quand vous sortez de là, vous avez un malaise. Et elles sont là et elles comparaissent devant un tribunal militaire pour hostilité contre la patrie, apologie du terrorisme. Donc, c'est elles qui sont, n'est-ce pas, exposées à tout. En tant que femmes, elles ont d'autres, beaucoup de problèmes plus que les hommes. Le harcèlement, il y a le chantage. C'est une situation difficile. En plus, si elles sont jeunes, c'est encore compliqué.
Vous êtes également formatrice de Frontline Defenders sur la sécurité et la protection physique des défenseurs. Qu'est-ce que vous préconisez, vous, pour justement protéger en particulier les femmes activistes?
La première personne à protéger les femmes défenseurs, c'est l'État. Et c'est dans cette optique que nous avons quand même élaboré un projet de proposition de loi portant protection des défenseurs et spécifiquement les défenseurs femmes. Donc depuis au moins 3 ans, ce projet a été développé. On continue à faire le plaidoyer. La deuxième chose, c'est qu'avec Frontline, nous mettons quand même en place des structures de formation. Comment se protéger de toutes ces animosités, de toutes ces menaces, de tous ces risques. Et comment faire, par exemple, son plan de sécurité personnelle et le plan de sécurité ensemble. Et là, en ce moment, nous sommes en train d'écrire un manuel de protection aux femmes défenseurs et la protection en ligne. Ces outils ne peuvent les aider que si, à côté de cela, il y a une volonté politique, on a vu ça ailleurs dans d'autres pays, qui acceptent et qui reconnaissent, n'est-ce pas, le statut de ces femmes défenseurs et qui s'engagent à les protéger.
Vous êtes également considéré par cet organisme donc de défense des défenseurs, vous êtes vous-même considéré comme personne en danger. Comment vivez-vous cela? Le fait d'être finalement des deux côtés, du côté de la protection des défenseurs et être vous-même un défenseur en danger.
C'est très très difficile. Alors à ce moment-là, ce que je fais parce qu'il s'agit de moi, c'est de s'oublier. Mais en même temps quand même, on a développé un vaste réseau de sympathisants au niveau national, régional, international, a fait autour de moi un bouclier. Donc. Mais il peut y avoir d'autres. D'ailleurs, la surveillance, la surveillance des bureaux, les filatures, les écoutes téléphoniques. Il y a une carte de Frontline qui, quand vous êtes en danger, vous donne ça pour de vous protéger. Je l'ai jusque-là. Vous devez essayer, n'est-ce pas, d'avoir une vie qui n'est plus une vie, c'est-à-dire que c'est votre boulot. Vous êtes obligé de faire attention à tout, mais en même temps, ne pas être dans la parano, parce qu'il faut quand même que les autres te voient tout le temps debout, parce qu'ils ont besoin de votre épaule. Mais c'est très, très difficile. Dans un contexte d'ailleurs où vous ne pouvez pas dialoguer avec les autorités, vous vous expliquez, même sur les malentendus, même si vous n'êtes pas d'accord. Donc ça devient difficile et ça devient encore difficile en Afrique centrale où les présidents sont restés très longtemps au pouvoir. Et en plus de cela, nous sommes quand même dans des pays patriarcats. Vous savez très bien que la femme ne doit pas parler n'importe comment à un homme. Et donc même au niveau de ma propre famille, de mes amis qui sont hommes et de ma propre famille, ce n'est pas évident. Donc c'est dans cet environnement-là que vous devez vous protéger vous-même et protéger les autres. Et c'est, croyez-moi, c'est difficile. C'est-à-dire que chaque jour qui est fini, vous dites bien merci. Je comprends pourquoi on n'a pas beaucoup de femmes défenseurs aujourd'hui. Malgré tout ce que nous faisons, les femmes préfèrent dire « si c'est ça qu'il faut aller vivre là-bas, je préfère être la femme de quelqu'un, attendre à la maison, qu'est-ce que je vais aller affronter les hommes là-bas ». Donc c'est difficile. Mais on est optimiste et c'est un combat juste et noble et nous ne pouvons pas abandonner parce que c'est juste et noble.
Merci beaucoup Maximilienne Ngombe. Je rappelle que vous êtes juriste et directrice exécutive du réseau des défenseurs des droits de l'homme de l'Afrique centrale, le REDAC. Bon courage et à très bientôt.
Merci, à très bientôt.
Alors, Israël, vous avez entendu cette dame, hein. C'est très profond tout ce qu'elle dit, hein. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que même au sein de votre propre famille, vous n'êtes pas forcément écoutée. Parce que vous êtes une femme. Et pourtant, c'est une femme qui a du caractère.
Et c'est vrai, c'est la réalité. C'est la réalité en Afrique et même dans d'autres horizons. Et je déplore cela. Je déplore cela parce que on voit que c'est une problématique de taille et une problématique qui mérite vraiment d'être prise au sérieux. Et c'est vrai, il y a des questions d'ordre culturel, mais nous sommes en train d'avancer. Et moi, je salue vraiment son courage, je salue son engagement dans cette lutte. Et je pense que cela doit éveiller des consciences. Et beaucoup de femmes doivent s'engager dans cette lutte. C'est la seule option pour pouvoir arriver.
On a de plus en plus, effectivement, de jeunes femmes, très jeunes femmes, hein, des femmes de 20 ans à peine, qui se retrouvent en prison parce qu'elles sont militantes de ceci ou de cela.
Oui, mais nous avons besoin aussi des icônes. Récemment, il y a la jeune dame au Soudan.
Absolument. À propos de femmes, on va parler de votre maman, votre défunte maman, qui a quitté ce monde récemment. Malheureusement, toutes nos condoléances pour votre chère maman, Monique Djonabaye, une dame qui a beaucoup travaillé justement dans le secteur informel. Et vous m'avez dit auparavant que vous lui devez votre passion de l'entrepreneuriat. On en a parlé tout à l'heure de ces dames. Elle fait partie de ces dames. Et vous m'avez dit, elle vous a transmis le virus de l'entrepreneur et vous la qualifiez même de serial entrepreneur. Je trouve ça très très beau. Est-ce que c'est le côté social de l'activité qui vous plaît et qui plaisait à votre maman?
Oui, c'est une femme très généreuse, c'est une femme battante. Je garde vraiment beaucoup de bons souvenirs d'elle parce que très tôt, elle a commencé à m'initier dans les activités génératrices des revenus. Je l'accompagnais en vendant les biens devant la maison. Elle faisait beaucoup de choses au même moment. Elle est enseignante de formation, mais cela ne l'a pas empêchée d'avoir des petites activités à côté.
Mais est-ce que c'était justement parce que le salaire d'enseignante ne suffisait pas aussi?
Tout à fait. Elle était institutrice adjointe et la famille est très grande. Donc, pour joindre les deux bouts, il faut faire tout ça à côté. Elle est tailleur. Elle a un atelier de couture où elle a formé beaucoup de cohortes de tailleurs. Jusqu'à aujourd'hui, ma grande sœur continue à faire ce que ma maman fait.
Donc, très talentueuse alors.
Oui, c'est vraiment une femme que Dieu a bénie avec beaucoup de talent. Et je dois aujourd'hui mon côté entrepreneurial à ma mère parce que je l'ai vue se réveiller très tôt et elle dort tard. Et je pense qu'elle a tiré la révérence en nous laissant ce message fort que nous devons continuer. Nous devons continuer.
Si jeunesse pouvait.
L'association culturelle tchadienne d'Akuna Espoir soutient et vient en aide depuis plus de 4 ans aux enfants de la rue N'Djamena, notamment en initiant des danses dans les espaces publics afin de les attirer, de les placer dans un centre d'accueil pour mineurs démunis. Voici pour en parler un reportage de notre correspondant dans la capitale tchadienne, André Kodmadjingar. On l'écoute.
Nous sommes dans le centre d'accueil et de réinsertion sociale des enfants et jeunes démunis situé dans un quartier de la capitale. Parmi les quelques 500 enfants de la rue et de jeunes démunis sensibilisés à travers la danse, quelques-uns ont accepté d'être placés dans ce centre.
Aujourd'hui, au centre, il y a 62 enfants qui viennent de réinsérer déjà 10 dans leurs familles respectives. Et donc là, actuellement, ils sont 52.
Ali Vandavokojut, directeur artistique de l'association Tchad Estar. Pour lui, il n'y a pas que de la danse au centre d'Akuna Espoir qu'il dirige, mais aussi de la formation professionnelle dans les domaines tels que la menuiserie, la couture et la mécanique pour aider ces jeunes à se prendre en charge dans l'avenir.
Il y a 15 enfants qui sont en formation professionnelle et aussi il y a des enfants qui ont fait 3 ans dans la rue et donc on les a aussi inscrits à l'école. Sur les 27 inscrits, il y a 24 qui passent en classe supérieure. Il y a 3 jeunes qui sont aussi inscrits au lycée. 2 ils passent en classe supérieure et ces enfants ne viennent pas seulement d'N'Djamena. D'autres qui viennent aussi du Cameroun et même du Nigeria. Ceux qui ont fui la guerre, qui se sont réfugiés dans la rue, on les a récupérés.
Les jeunes filles dont l'âge varie entre 10 et 15 ans, pensionnaires du 10 centre affirment confirme à VOA Afrique qu'elles ont été victimes de maltraitance, de divorce et de négligence familiale.
J'ai des problèmes avec ma tante paternelle. J'ai perdu ma mère quand j'avais 4 ans et mon père, je ne les connais pas. Ils sont séparés avec ma mère avant qu'elle m'accouche. Larry n'a jamais enfanté. On vient tous d'une famille.
Avant, je suis au Nigeria avec mon père, avec ma mère. Et puis ma mère, elle est malade. On est venu au village pour la soigner. Elle est décédée. Mon oncle, il m'a amené ici, sa femme-là. Elle me maltraite où je suis sorti dans la rue.
Si les filles se retrouvent dans la rue par contrainte, les garçons, quant à eux, ont d'autres ambitions.
J'ai été attiré par les amis qui sont dans la rue et je me suis installé avec eux. J'ai même arrêté les études au niveau de 3e. Ça fait déjà 1 an et 2 mois que je suis ici. Et actuellement, j'ai fait la couture. Je suis très content parce que ma vie a été changée.
Je me suis retrouvé dans la rue à l'âge de 6 ans et j'ai fait déjà 10 ans dehors. Moi, je fais beaucoup de vols. Aujourd'hui, j'ai laissé toutes les choses qui sont mauvaises et j'étais en formation d'immunisée.
La représentante de l'UNICEF au Tchad, Dr Viviane Van Stetegem, qui a rendu visite à ses pensionnaires, conseille aux responsables du centre de pensée à reconstituer le lien familial de ses enfants.
Même quand ce lien familial peut être assez compliqué, l'enfant devrait appartenir à une famille et que les enfants qui appartiennent à cette famille de Dakuna devraient être un petit peu l'exception. Et puis nous, on va voir comment les aider de manière plus précise.
André Odumadingar Diamena, VOA Afrique.
Merci, merci les enfants.
Mais oui, et c'est la jeunesse prouvée.
Israël, vous avez une réaction par rapport à ce reportage, très beau reportage, des témoignages d'enfants vraiment très touchants, vraiment.
Oui, je connais très bien l'association, nous travaillons en partenariat, je connais Alévi, je connais aussi toute son équipe. Nous avons même récemment l'association Génération ABCD en partenariat avec Dakuna Espoir. Nous avons remis des dons, des vêtements, des dons en nature à ces enfants pour pouvoir témoigner aussi notre compassion et notre gratitude pour ce que Dakuna Espoir fait. Donc moi, je salue vraiment le dynamisme autour de cette association parce qu'ils envoient un message d'espoir.
Oui, il y a vraiment l'espoir dans ce reportage.
Oui.
Et ces enfants, ils ont l'air équilibrés.
Oui, et les témoignages les prouvent à suffisance. Des enfants qui ont arrêté de voler, des enfants qui ont été maltraités, mais qui aujourd'hui trouvent cette capacité de pouvoir surmonter et avancer. Ça, à mon avis, je pense que c'est ça, transformer les vies.
C'est peut-être des futurs entrepreneurs.
C'est des futurs entrepreneurs, c'est des futurs leaders, c'est des futurs dirigeants. Et il faut jamais, en fait, ne pas s'empêcher le droit de rêver. On peut sortir de nulle part, on peut quitter un village et finir président de la République comme Nelson Mandela. Tout comme on peut être un enfant de la rue et devenir ministre. On peut être enfant de la rue et finir serial entrepreneur. Donc, on ne s'interdit pas le droit de rêver.
En ce qui concerne la formation, justement, vous-même, dans le cadre de vos activités, vous proposez des formations spécifiques intéressantes ?
Tout à fait. Et là, actuellement même, nous sommes en train de travailler sur un projet en partenariat avec une ONG hollandaise. Le projet dénommé Job Booster. Nous allons aussi promouvoir l'auto-emploi, mais la problématique des métiers renvoie même à notre système éducatif qu'il faut complètement remettre en cause. Parce que le système éducatif actuel, ça génère des chômeurs. Je suis produit de ce système éducatif, mais il m'a fallu que je me remette en cause et que je puisse aller apprendre comment trouver des solutions aux problèmes pour être entrepreneur aujourd'hui. Nous avons des formations orientées métiers, selon même les enjeux de notre ère. Nous offrons des formations type dans le domaine du numérique. Nous offrons aussi des formations pratiques pour permettre toute personne qui intègre nos programmes de formation puisse être outillée pour le permettre d'entreprendre ou encore d'obtenir un emploi.
Donc vous avez déjà des exemples de jeunes qui ressortent de chez vous et puis qui ont un emploi à la clé ?
Oui, il y en a beaucoup. On vient juste de commencer l'association, il n'y a pas encore 3 ans formellement, mais le bilan est positif.
Entre parenthèses.
Le mariage forcé des enfants est encore une pratique courante dans certains pays africains et notamment au Bénin. Pour combattre ce fléau, l'Association des femmes juristes du pays multiplie les campagnes de sensibilisation dans les zones reculées où cette violation des droits de la personne est plus fréquente. Et voici donc pour en parler le reportage de Ginette Fleuradandé à Cotonou.
Cécile est âgée de 14 ans et elle a trouvé refuge auprès des sœurs salésiennes à Cotonou après avoir échappé à la stricte surveillance de son mari, âgé de 51 ans. Elle raconte sa mésaventure.
C'est mon oncle chez qui je vivais qui m'a donné en mariage à un de ses amis. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je me suis réveillée dans une case sur une natte. Et c'est là que j'ai reconnu l'ami de mon oncle. Il m'a dit que je suis devenue sa femme et que mon oncle a déjà pris la dot. Il a dit pour sceller le mariage qu'il doit coucher avec moi. Je lui ai dit que je suis vierge, que je ne pourrais pas faire une chose pareille. Mais deux personnes m'ont immobilisée et il m'a violée. Pendant des jours, j'urinais du sang. Je pleurais tout le temps. Et c'est sa première femme qui m'a aidée à fuir de la maison.
De nombreuses jeunes filles sont ainsi données en mariage forcé à travers tout le Bénin, comme dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest. Les chiffres sont assez révélateurs. 3 filles sur 10 sont mariées peu après leur premier menstruel. 3,7 d'entre elles sont envoyées dans un domicile conjugal avant l'âge de 18 ans. Ghislaine Bokovo est commissaire de police, responsable de l'Office central des mineurs, de la famille et de la répression de la traite des êtres humains.
La sensibilisation a très duré. Il faut frapper, sanctionner pour montrer l'exemple. Je ne cesse de mener cette campagne, surtout dans les organes de sécurité, pour demander à mes pères de combattre le phénomène dans cette dernière rigueur.
Même si la loi punit le mariage forcé au Bénin, plusieurs paramètres empêchent la répression et la pratique continue en toute impunité. Maître Marie-Élise Guédo de l'Association des femmes juristes.
Déjà, elle est la victime, mais elle te dira, je ne peux pas amener mes parents en justice. Ça fait déjà une première difficulté. Nous, on ne peut pas se substituer à la fille pour saisir le parquet, par exemple, pour violence. De deux, dans les deux familles, c'est la loi du silence, puisque ce sont les familles qui ont décidé du rapt de la fille et du mariage forcé. Personne n'en parle, donc personne ne peut dénoncer personne.
Face à ces difficultés pour faire respecter la loi, beaucoup estiment que pour combattre la pratique, il faut sensibiliser et associer les chefs religieux et coutumiers. Pour Chanceline Mevoanou, une web activiste, la pauvreté et la cupidité sont parmi les causes tenaces des mariages forcés.
C'est parce que la situation à la maison n'est pas très reluisante. La famille pense que quand on va donner cette fille à un homme, l'homme va mieux prendre soin d'elle et lui donner à manger. Mais
face à l'ampleur du phénomène, les artistes aussi sont mobilisés. Pour ceci, mais ambassadrice itinérante de l'UNICEF, le respect de la tradition ne saurait servir d'excuse à la violation des droits des enfants.
Une fille qui n'est pas encore en âge, garder une grossesse, qui est donnée en mariage, qui subit des rapports sexuels de force, donc c'est une très belle cause et je suis prête et je me suis engagée dedans.
C'est donc une longue course d'obstacles, mais le Bénin espère venir à bout du mariage des enfants d'ici 2030. De Cotonou, Ginette Fleuradandé pour VOA Afrique.
Alors pour information, il faut savoir que le Code des personnes et de la famille au Bénin fixe l'âge légal à 18 ans. Et en 2012, le Bénin a adopté la loi sur la prévention et l'interdiction de la violence à l'égard des femmes qui interdit le mariage forcé et autres violences. Et l'article 31 prévoit des peines de prison d'un à trois ans et d'une amende de 500 000 à 2 millions de francs CFA. Sachant que pas grand chose n'est fait jusqu'ici pour vraiment sanctionner ce type de pratique.
Et c'est triste, c'est vraiment triste en écoutant le reportage. J'ai été ému parce que ça se passe aussi chez moi et je pense que c'est quelque chose qu'il faut combattre avec toute l'énergie possible que nous pouvons avoir.
Et chez vous, c'est exactement la même loi, hein, avant l'âge de 18 ans et les peines sont encore plus sévères, ça peut aller jusqu'à 10 ans de prison.
Oui, c'est appliqué récemment une personnalité qui a été mise en prison pour...
Ça donne l'exemple,
voilà.
Comme ça.
Je pense que la loi, le respect de la loi doit servir aussi d'éducation. C'est ça la fonction éducative de la loi. On doit se servir de la loi pour contraindre les gens à respecter la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. Maintenant, les vides ou encore les questions de consentement parental, tout ça, ça touche maintenant à des questions d'ignorance. Mmh. Et je pense que jouer sur des émotions pour dire que ce sont mes parents, je ne vais pas les dénoncer, non. Mmh. Il faut conscientiser les gens, il faut qu'il y ait une coopération entre les acteurs qui font la lutte au plan coercitif et aussi les victimes, pour que nous puissions éradiquer définitivement ce phénomène. non seulement on ne doit pas s'arrêter au niveau des plaidoyers, il faut aller au-delà. Il faut intenter des actions pour contourner et envoyer un message fort que nous devons respecter la loi.
Israël, John Abay, c'était un grand plaisir de discuter avec vous.
Le plaisir pour moi.
À très bientôt.
Nathalie, et je profite aussi de cette antenne pour dire un grand merci à tous mes amis qui me suivent et que le chemin est dur, mais persévérons, soyons résilients. Un jour, l'histoire sera belle à raconter.
Merci beaucoup, Israël. À bientôt.
Arrête.